Le fil secret.
Que peuvent bien se raconter de grands musiciens lorsqu'ils se croisent? Voici le fil secret de leur rencontre.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
La rencontre se passe à Weimar, une petite ville du centre de l'Allemagne. Franz Liszt s'y est établi depuis 1859 et en a fait un foyer artistique et musical de premier plan. Nous sommes en novembre 1877, Liszt a 66 ans et s'occupe plus particulièrement de monter Samson et Dalila, un opéra de son ami Camille Saint-Saëns. L'Opéra de Paris l'a refusé et Liszt s'est proposé de le créer à Weimar. Saint-Saëns fait depuis octobre une tournée de concerts en Allemagne et passe donc voir Liszt à l'approche de la première de son opéra qui aura lieu le 2 décembre. Mais Saint-Saëns n'est pas seul. Il arrive avec l'un de ses élèves et protégés, Gabriel Fauré. Ce dernier a 32 ans. Il s'est fait remarquer par diverses œuvres, en particulier la mélodie « Après un rêve », le premier nocturne pour piano et la première sonate pour violon et piano. Fauré sort d'une déception sentimentale. Marianne Viardot, fille de la célèbre cantatrice Pauline Viardot, vient de rompre leurs fiançailles. Fauré présente à Liszt une œuvre qu'il vient d'achever, une grande ballade pour piano en fa dièse majeure qui dure presque un quart d'heure. Comme à l'accoutumée, Liszt s'installe au piano et commence à déchiffrer la partition. Elle commence par une longue et belle mélodie. Proust en sera plus tard séduit, au point de la décrire en guise de chef-d'œuvre de son musicien imaginaire Vinteuil, dans son roman Du côté de chez Swann. Mais à la moitié de la ballade, Liszt s'interrompt soudain et déclare, à la stupéfaction de Saint-Saëns et Fauré, « Cette musique est trop difficile pour moi. » Comment cela est-il concevable? Liszt, le plus grand virtuose que le piano ait jamais connu, celui qui exécutait en se jouant des transcriptions et paraphrases tellement acrobatiques qu'aujourd'hui encore les plus grands pianistes tremblent en s'y attaquant. La ballade de Fauré est certes une pièce techniquement exigeante, mais pas au point de mettre Liszt en défaut. Les musicologues pensent plutôt qu'il a été dérouté par l'originalité et la nouveauté de l'écriture, fluide et annonçant l'impressionnisme, mais aussi très dense. Fauré lui-même se met alors au piano et joue la fin de la ballade. Liszt, quoique très soucieux de son propre prestige, ne conçut aucune rancune de sa mésaventure. Il félicita Fauré, l'encouragea et lui offrira un portrait dédicacé avec ces mots « De Franz Liszt à Gabriel Fauré, haute estime et affectueux dévouement. » Il semble bien que Fauré ait tiré enseignement de l'épisode. En effet, il reprit sa partition et en réalisa une version pour piano et orchestre. Il laissa subsister la version initiale pour piano seul, mais elle contenait manifestement de quoi alimenter un orchestre tout en allégeant la partie de piano. Voici donc cette ballade pour piano et orchestre de Gabriel Fauré. Elle est interprétée ici par Marie-Françoise Bucquet, accompagnée par l'orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo sous la direction de Paul Capolongo. conservons l'atmosphère envoûtante de cette ballade, avec deux pièces pour piano de Liszt, au lac de Wallenstadt et au bord d'une source. Elles font partie d'un recueil intitulé « Les années de pèlerinage » et ont été publiées en 1855. Voici d'abord « Au lac de Wallenstadt », interprété par Claudio Arao. Et voici, au bord d'une source, sous les doigts de Kun Wo Paik. Thank you. Vous avez pu l'entendre vous-même. Tout comme la balade de Fauré, ces deux pièces anticipent l'impressionnisme musical par leur fluidité et leur caractère vaporeux. Liszt, d'ailleurs, en écrira d'autres dans la même veine, notamment les célèbres « Jeux d'eau à la Villa d'Est ». Alors comment comprendre qu'il ait été dérouté par le pré-impressionnisme de la balade de Gabriel Fauré ? Le mystère demeure. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.